Les films qui ont changé nos regards, Michel Halberstadt.
Bonjour, bienvenue dans le jour 3 de notre série d'été, les films, les 10 films qui changent nos regards. Alors après Le Mépris, lundi, après Le Troisième Homme hier, j'espère qu'on vous a donné envie de les voir ou j'imagine de les revoir. Aujourd'hui, je pense que ce sera plutôt une journée sous le signe de la découverte. Du metteur en scène dont nous allons parler aujourd'hui, Tarantino dit qu'il est le réalisateur le plus cool de la planète. Et c'est vrai qu'avec son sourire énigmatique, ses lunettes noires et son débit de voix posé, il respire la décontraction. Son nom s'égrène comme trois onomatopées exotiques, Wong Kar Wai. En 97, l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, Wong Kar Wai décide de s'enfuir à l'autre bout du monde et part en Argentine filmer un tango du désamour et de l'exil. Ces deux amoureux désynchronisés s'interrogent, comme Hong Kong face à la Chine, « Pouvons-nous être heureux ensemble? Can we be happy together ?» Aujourd'hui, jusqu'à midi, pour évoquer « We're happy together » en direct, je suis très heureuse de recevoir l'ancien monteur et devenu réalisateur, scénariste et producteur, Jacques Audiard. Bonjour.
Bonjour Michel.
Alors Jacques Audiard, votre filmographie est impressionnante. En 1994, Regarde les hommes tombés avec Jean-Louis Trintignant et Mathieu Kassovitz qui vous impose d'emblée. Le film remporte 3 Césars et le prix Georges Sadoul. En 1996, Un héros très discret avec Mathieu Kassovitz et Albert Dupontel est en compétition à Cannes et reçoit le prix du scénario. En 2001, Sur mes lèvres avec Emmanuel Devos et Vincent Cassel remporte à nouveau 3 Césars. En 2005, vous créez votre société de production, page 114, en hommage à votre père. Et vous réalisez De battre mon cœur s'est arrêté, d'après le film de James Toback avec Romain Duris et Nils Arestrup. C'est un triomphe, critique et public, le film remportera 8 Césars. En 2009, c'est un prophète avec Nils Arestrup et Tahar Rahim, grand prix à Cannes, prix Louis de Luc, 9 Césars dont 2 pour Tahar Rahim. Et vous êtes le troisième film le plus récompensé au César après Le Dernier Métro et Cyrano, excusez du peu. Le film sera aussi nominé au César du meilleur film étranger. 2012, c'est De rouille et d'os avec Marion Cotillard et Mathias Schoenaert. Et 2015, L'Apothéose, Dipane remporte la Palme d'Or. Que faire après une palme? Partir. Vous partez aux États-Unis tourner Les Frères Sisters, un western, d'après Patrick DeWitt avec Jesse Reilly et Joaquin Phoenix. Cette fois, vous n'allez pas à Cannes mais à Venise où vous remportez le Lion d'argent du meilleur réalisateur et le César du meilleur réalisateur. En 2020, nul n'a oublié votre incursion dans la série Le Bureau des légendes dont vous fermez la porte en réalisant les 2 ultimes épisodes. Cette année à Cannes, vous étiez en compétition avec les Olympiades que vous avez produit au sein de votre société sans vos partenaires habituels. Cette adaptation de 3 nouvelles graphiques de l'Américain Adrian Tomine que vous avez écrite avec Léa Missius et Céline Sciamma décrit les tribulations sentimentales d'une jeunesse multiculturelle au sein du 13e arrondissement. Vous filmez en noir et blanc ce Paris contemporain, sans pavé ni monument, fait de lignes géométriques et de toits en pagode. Moi j'ai adoré ce film enjoué, lumineux, virevoltant, qui réinvente le discours amoureux où souffle un vent de liberté de ton et décor, que vous pourrez voir en salle le 27 octobre. Jacques Audiard, vous aimez aller vers d'autres cultures et d'autres langues, l'anglais avec Les Frères Sisters, le tamoul avec Dipane, que vos acteurs parlaient sur le plateau, mais que vous ne compreniez pas puisque vous ne parlez pas votre langue. Vous dites que pour vous c'était comme une musique, tout à fait comme Wong Kar Wai qui en Argentine ne comprenait absolument rien à ce qui se disait autour de lui. Pour lui comme pour vous, est-ce que ce qui compte avant tout sur un plateau c'est le rythme ?
Oui, d'une certaine façon, oui, le rythme, le caractère et l'aspect musical effectivement de... Des choses, comment une musique va investir un décor, quelque chose comme ça.
Mais c'est vraiment...
Chez Wong Kar-wai, l'intensité est une chose vraiment, vraiment centrale. Même ses décors sont intenses, c'est très particulier. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué très vite chez lui et qui est bouleversant.
À votre avis, comment ça se crée une intensité dans un décor?
Alors, je ne sais pas trop, c'est une intensité dans un décor. Déjà, comment être attentif à je vais peut-être être un peu brouillon, Michel.
Tout va bien.
Par exemple, j'ai cru longtemps que Wong Kar-wai était en fait un des premiers à utiliser le numérique. Et c'est totalement fou.
Bien sûr.
Tous ces films, ces premiers films, Chongqing,
Les Années Sauvages.
Les amants, Les années sauvages, tout ça, et Happy Together et In the Mood, c'est des films en 35 mm, filmés avec des Ariflex, je crois.
Absolument.
Et c'est Christopher Deutsch, je crois, que son opérateur.
Oui.
Comme on dit, australo-chinois, ou je sais pas trop. Hongkongais, en tout cas, ça c'est sûr. Et ça veut dire que comment il, par exemple, sur un décor, il va colorer les sources de lumière.
Oui.
Les sources de lumière ne sont pas naturelles. Il va faire des aplats de couleurs. Il va, quand on va dans Happy Together, le nombre de motifs et de couleurs qu'il y a au mètre carré, c'est très impressionnant. Alors, il n'est pas nécessaire. En plus, il filme au grand angle.
Oui.
Il a très souvent, mais pas tout le temps, il y a des scènes magistrales qui sont en plan fixe, mais il met toujours quand même généralement de la caméra portée et du mouvement. Et tout ça fait que les décors en eux-mêmes sont saisissants. Moi, j'ai l'impression d'une chose, en fait, c'est qu'il procède, c'est comme s'il procédait par une représentation initiale visuelle du décor, et qu'il imaginait un son dedans, une musique, que ça peut être la musique des voix, ça peut être la musique, et que c'est en fonction de ça qu'il allait se mouvoir les acteurs, les personnages.
Alors, il y a un troisième larron dont il faut parler, c'est William Chang, qui est à la fois son monteur et son chef déco. Et il dit qu'ils font vraiment le film à trois, avec Chris Doyle, William Chang, et qu'ils sont comme un trio de jazz qui improvise. Vous avez rapport avec votre équipe? Vous en changez?
Non, généralement, j'ai des collaborations. Sur plusieurs films avec les mêmes. Enfin, ce que vous définissez là comme un chef opérateur déco et monteur, ça vient pour moi ultérieurement, mais ça veut dire que Wong Kar-wai a déjà, comment, à travers l'écriture, d'ailleurs on pourrait s'arrêter là-dessus aussi, il a déjà une vision de son montage, je veux dire, pas précise, je crois, peut-être un peu, un peu tremblante, mais il a, j'imagine, mais comme un musicien au fond de sa tête le battement de sa musique. Voilà.
Alors
quand on dit chef opérateur déco, moi je mettrais aussi les costumes qui sont très impressionnants. Et ça s'appelle tout simplement de la direction artistique.
Oui.
Et je pense que comme Ridley Scott a une carrière avant de direction artistique, je pense que Wong Kar-wai est un grand directeur artistique.
Mais il a travaillé dans la pub et il s'est beaucoup occupé de typographie.
Ça aussi, on pourrait en parler.
Oui. Alors, qu'est-ce qui déclenche chez vous le désir de faire un film?
Alors là, Michel, à 11h le matin, je suis égaré. Là.
Alors, pendant que vous réfléchissez à la question, on va écouter Wong Kar-wai, alors.
Non, c'est parce que c'est... oui, non, mais parlons de Wong. Oui.
Alors, parlons de Wong. Chez Wong Kar-wai, mon cher Jacques Audiard, ce qui déclenche son désir, c'est généralement la lecture. J'aime beaucoup les nouvelles sud-américaines, les romans. Et mon préféré, c'est Manuel Puig. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Mystères de Buenos Aires. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit, voilà, on a deux acteurs, faisons un film sur deux hommes. Ce dont je me souviens de Buenos Aires, c'est les sons. Et pour moi, les sons de la ville, c'est le foot, parce qu'il y a de la radio partout, et le tango. J'avais déjà travaillé avec Leslie Cheung et Tony Leung. J'ai pensé qu'il y avait beaucoup d'alchimie entre eux. Et je me suis dit qu'ils pourraient jouer des amants. On a démarré ça comme une blague, en fait. Et puis la blague s'est transformée en film. J'aime pas la façon dont on montre les homosexuels à l'écran. Je pense qu'il est temps de les traiter comme des gens normaux. La scène d'amour, pour moi, qui est au début du film, ça fait partie de leur vie quotidienne. Voilà, c'est comme déjeuner, regarder la télé, faire la vaisselle. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes là-dessus. Je vais toujours piocher dans la personnalité des acteurs que je connais bien. Alors je leur donne des dialogues, le jour même, et puis on voit ce que ça donne. Parfois, mais juste une ou deux scènes dans tout le film, je les laisse improviser. Par exemple, la scène où ils sautent sur le lit, ben ça, c'est eux qui l'ont improvisé. La première partie du film est en noir et blanc parce que c'est le passé. Et quand ils se retrouvent, au bout de 20 minutes, dans un hôpital, le film devient en couleur. Pour moi, toute l'histoire qui se passe à Buenos Aires, c'est comme un rêve. Il ne redevient une réalité, c'est presque comme un réveil quand Tony Leung est à Taipei. Il connaît les lieux, il retourne dans une communauté qu'il connaît. Voilà, c'était une interview de Wong Kar-wai qui a été faite dans les rues de Hong Kong.
Magnifique. Après, moi, je crois pas. C'est bizarre, je le crois qu'à moitié. Peut-être sur l'exemple de Happy Together, fait que son inspiration littéraire. C'est, bah, je crois qu'à moitié qui suis pour me permettre pour dire ça. Mais je trouve, j'ai l'impression que son inspiration initiale est beaucoup plus composite que ça. Elle vient de plein d'endroits. Elle vient de, à mon avis, pas mal de la bande dessinée, du manga, des choses, des choses comme ça. Et peut-être que c'est de la littérature, le manga. Ça, c'est bien possible. Et je pense qu'elle est faite de beaucoup de matériel peut-être qu'on considérerait comme un peu vil, un peu trivial, vous voyez. Que ce soit le clip, la mode, toutes ces choses-là. Et je crois que ça s'en fait. Ce que j'ai remarqué, moi, dans les films, dans en tout cas dans l'ensemble qui va de Chongqing à In the Mood, c'est que c'est comme si il partait d'une matière plus riche, une matière scénaristique plus riche, et qu'il la rétrécissait au tournage, qu'il la simplifiait au tournage.
Non, moi, je peux vous dire, pour avoir travaillé avec lui, que le scénario de départ et le film final n'a rien à voir et qu'il réécrit tout au montage. C'est pour ça qu'il y a tellement de voix off.
C'est exactement ce que je crois. Je crois qu'il doit y avoir il a un usage très pragmatique du cinéma, et c'est très courageux, hein, parce que comment aller au tournage sur des délais de tournage courts avec trois feuilles volantes, faut vraiment savoir ce qu'on va faire.
Oui, il faut avoir les nerfs, effectivement. Et même pour la musique, il y a une anecdote très drôle, c'est qu'ils partaient tourner à Buenos Aires, et l'avion de Hong Kong, ils ont fait escale à Amsterdam, et c'est à Amsterdam, dans la boutique de l'aéroport, qu'il a trouvé un disque de Piazzolla, et c'est devenu la musique du film. Mais ils partaient sans musique, quoi.
C'est quelqu'un, il ne faut pas qu'il s'arrête, parce que là, tout peut changer.
Alors, il dit qu'un film, il y a toujours une partie de chance ou de hasard dans un film. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, absolument.
C'est quelque chose que vous avez observé?
Je crois que c'est fait de la conjugaison de grosses préméditations, préparations, ce que vous voulez, et d'une très grosse partie de hasard, d'impromptu, d'incontrôlé, d'imprévisible.
Alors, par exemple, dans Happy Together, il a tout filmé en couleur, et c'est au montage qu'il a décidé que la partie avant le présent devait être en noir et blanc. Est-ce que pour vous, dans les Olympiades, le noir et blanc était inscrit d'office, ou c'est une décision que vous avez prise en cours?
Oui, ça faisait partie. Alors oui, comment naissent les projets? Comment j'ai eu, moi, un moment de... Ah, on parle de moi aussi.
Ah ben oui, un petit peu.
Alors oui, ça fait partie. Il y a deux choses qui m'ont redéclenché, parce que c'est un projet que j'avais failli, j'avais écrit avec Céline, j'ai fait les Sisters, et puis je sais pas, donc X temps après, je reviens sur ce qu'on avait fait. J'ai vraiment beaucoup de doutes, et puis tout à coup j'ai vraiment deux éléments déclencheurs, c'est le noir et blanc, le 13e arrondissement et l'inter ethnique culturel.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est une chose. Comment l'intitulé de votre émission, c'est qu'il y a la notion de changement, qu'est-ce qui a changé le regard, tout ça. Et Wong Kar-wai, ce qui est très étonnant, c'est que pendant 2, 3, 4 films, il constitue une espèce de vaisseau fait d'outils publicitaires, de tout un matériel, un bagage d'images qui viendrait du clip, de la publicité, des magazines, de ce que vous voulez. Et il en fait une chose qui a un coefficient de pénétration absolument colossal, et ça, il va s'en servir pour un truc dingue, c'est montrer une histoire d'amour entre deux hommes. Et que ça, c'était ce qui fait que, enfin comment, et ça, c'était impensable. Et lui, il en fait une chose absolument normale. C'est comme si sa modernité, tout simplement, c'était de faire le film d'après. Celui qui n'a pas été pensé au moment où on le fait, ou et qui met donc alors là oui effectivement comment les regards vont changer, et ça c'est frappant, c'est vraiment frappant. Et quand on voit aujourd'hui, et je pense, et j'invite les gens vraiment à revoir comment les premiers films de Wong Kar-wai, dire qu'ils n'ont pas pris une ride est idiot. Ils ont toujours cette puissance de matraquage insensée, mais vraiment, mais d'une beauté. C'est les hommes sont à périr de beauté, oui. Et les femmes, c'est incroyable. Alors, le truc, c'est que je pense pas comment que c'est quand je dis que c'est un cinéaste de l'intensité, c'est de l'intensité de la jeunesse. Je crois que l'âge ne peut pas vraiment rentrer dedans. La chronique de l'âge, du temps qui passe. C'est comment ces amours sont des amours toujours naissantes, avec cette idée de allez, on va recommencer.
Oui. Alors oui, justement,
tu crois pas qu'on doit recommencer?
On va recommencer.
Seuls les débuts existent.
On va recommencer, c'est la phrase clé de Happy Together, parce que chaque fois qu'il aurait rompu.
La phrase, dans les anges déchus, c'était on est toujours partenaire.
C'est ça, exactement.
qu'elle aveu amoureux sous forme d'euphémisme.
Voilà, c'est ça. C'était une relation de business qui ne voulait pas être amoureuse.
Oui, bien sûr.
Et là, et si on recommençait à zéro, alors on va écouter ensemble un extrait du film. Donc je rappelle, c'est l'histoire de deux hommes qui sont venus en Argentine pour faire un voyage. Ils ont rompu sur la route. Ils se sont séparés. Tony Leung, qu'on va entendre maintenant, est devenu racoleur pour un bar à tango, donc il accueille les touristes devant le bar. Et Leslie Cheung est devenu un gigolo, et voilà ce que donne le tango de la jalousie. Donc ça, c'est Tony qui accueille les clients. Entrez, entrez, bienvenue. Il est en smoking, en manteau, très chic, et il accueille les clients qui l'attendent dehors. Et là-dessus, il y a un taxi qui vient s'arrêter, dont descend un groupe de gens, dont Tony Leung, dont Leslie Cheung, pardon, son ex, qui est visiblement un peu gigolo avec des Américains friqués. Il rentre dans le bar, il fait comme s'il ne voyait pas son ancien amant. Et là-dessus démarre le tango de la jalousie dans une salle à damiers noirs et blancs, gros plan sur un accordéon, un bandoneon d'ailleurs exactement, et un couple de professionnels, de danseurs tango ou professionnels, la femme a des talons, une robe à paillettes, le dos nu. Ils ont des cheveux gominés tous les deux et ils dansent le tango devant la salle. Tout le monde les regarde. Et dans un recoin, il y a Leslie Cheung et sa bande. Et dehors, Tony Leung qui fume une cigarette et qui aimerait bien savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et comme s'il sentait son regard, Leslie Cheung embrasse à pleine bouche le blond. Et comme aimanté par la vitre, Tony Leung dehors colle son nez à la vitre pour essayer de voir qu'est-ce que fait Leslie à l'intérieur en fumant une cigarette. Et puis ça s'arrête et Leslie continue à draguer le blond, tandis que dehors, Tony mange son sandwich. Voilà. Le rythme et la passion, c'est assez beau dans le tango quand même. C'est comme ça qu'il définit le tango, Wong Kar-wai, le rythme et la passion. C'est une musique qui vous touche. Moi, ça ne m'a jamais touché avant ce film.
Non, le tango, ce n'est pas une musique qui me bouleverse. La musique de Piazzolla est extraordinaire.
Ouais, c'est ça.
Et puis, il ne faut pas oublier Caetano Veloso.
On entendra tout à l'heure.
Ouais. Qui est juste une chose à pleurer.
Ah, oui.
Alors, vous dites, vous racontez très très bien les images, Michel. C'est formidable. Vous êtes une grosse raconteuse d'images. Alors, vous commencez en disant ils ne sont plus ensemble.
Oui.
Ça, c'est ce que vous pensez. Moi, je crois que c'est une relation sadomasochiste. Bien sûr qu'ils sont ensemble. Et bien sûr que le rôle de l'un est de faire souffrir l'autre.
Oui. Et réciproquement, il y a de temps en temps une bascule quand même.
Oui, mais cela dit, il y en a un qui aurait le rôle de méchant irrésistible et l'autre le rôle de victime. Bon, voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai dans toutes les histoires d'amour, non? Il y en a toujours un qui aime plus que l'autre.
C'est un conseil que vous nous donnez là.
Non, c'est pour les films.
Ça, j'ai l'impression.
Au cinéma, ça marche comme ça quand même.
Non, mais l'amour dans les films de Wong est une chose très singulière. Ce sont des amours qui commencent. qui ne peuvent pas se développer parce qu'ils sont sur le mode de l'intensité. Alors, on ne peut pas être intense sur la durée, n'est-ce pas? Et alors, soit c'est ça, soit ils ne se font pas. Soit ça va être, c'est de l'ordre du croisement, de l'effleurement du regard. Et ça ne se fait pas. Ça ne veut pas dire que ce soit. Et ça ne se fait pas peut-être par peur de l'intensité.
Oui. Comme in the mood for love.
Exactement.
Ouais. Alors, est-ce que ça a un rapport ou non, d'après vous, le cinéma de Wong Kar-wai avec la nouvelle vague?
Ah, toujours cette nouvelle vague de merde. franchement, arrêtez, ça m'assomme.
Pourquoi ça vous assomme?
Parce que, je ne sais pas, ça fait un petit moment que je suis là-dedans, et c'est vraiment, ça serait une espèce de socle ultime, de référence ultime. Ce sont des réalisateurs que j'adore, je suis venu au cinéma, mais c'est incroyable, c'est comme si c'était, comment, c'est la chanson de Roland, vous voyez, ça s'est duré. Vous savez, hier, comment je me suis plongé sur le titre, et Happy Together, qui a une forme d'ironie, bon, c'est un morceau, une espèce de scie enregistrée par les Turtles, de musique, de musiciens moustachus absurdes.
Ouais.
Et le titre cantonais, alors c'est du cantonais, c'est pas du mandarin, c'est Chung Guang Chat Sit.
Oui.
Et ça, alors, j'ai dû demander à mon actrice Lucie Zhang, qui est, elle, de culture mandarine, la traduction de ça. Et alors, la traduction, c'est Lumière de printemps qui apparaît. Et le film a été exploité sous Happy Together. Vous voyez le rapport ou pas? Il n'y en a pas des masses.
Non, donc, pas des masses, non.
Non, pas des masses, même si Happy Together est un bon titre. Mais Lumière de printemps qui apparaît, je veux dire, c'est pas Spring Break. ne rêvons pas. Mais c'est Lumière de printemps qui apparaît, c'est qu'il y a une lueur d'espoir. Il y a un truc, voilà, il y a plus d'espoir dans le titre en cantonais. Je voulais juste vous dire ça.
Oui, mais je ne suis pas persuadée qu'il y ait beaucoup d'espoir dans le film, en revanche. Je le trouvais assez désenchanté.
Non, mais comment ils sont mus par l'idée que ça va pouvoir recommencer.
Ouais.
Il faut penser une chose aussi, comment c'est. Il y a presque une dimension de deuil. C'est juste au moment de la rétrocession.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça doit être dans la tête de Wong Kar-wai, ce truc-là? Et souvenons-nous qu'à la fin du film, il y a un reportage sur la mort de Deng Xiaoping.
Bien sûr.
Ouais. Et à chaque fois, il y a cette petite note historique dans In the Mood for Love, c'était le voyage de De Gaulle au Cambodge. Il y a toujours ces petits rappels de, alors que ce sont des gens qui sont très, 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 très dans le présent. Et à un moment donné, l'histoire, quand même, les rattrape par les pieds.
Ouais. Alors, comment est-ce que Hong Kong est présent dans le cinéma de Wong Kar-wai? Thierry Jousse nous en parle.
Il a un peu, je pense, introduit dans son cinéma tout ce que Hong Kong a été, et est peut-être encore d'ailleurs, c'est-à-dire un lieu de passage, un lieu de croisement, un lieu de transit, je dirais pratiquement, où l'immigration était assez importante, évidemment l'exil des Chinois de Chine populaire, mais aussi les Philippins, les gens de Singapour. Enfin, c'est un lieu de passage pour tous les gens en Asie, et on retrouve ça d'une certaine façon chez Wong Kar-wai, c'est-à-dire des êtres qui se croisent, qui se ratent parfois, qui en tout cas essayent de communiquer entre eux, qui sont toujours inclus, voilà, dans une espèce de monde qui est un peu leur monde à eux, d'une certaine manière. C'est aussi ça la force de Wong Kar-wai, c'est-à-dire d'arriver à créer, à partir de la réalité, un monde totalement subjectif, totalement personnel, avec une grande fascination pour les années 60. Et la fascination de Wong Kar-wai pour les années 60, elle se retrouve aussi dans son style, c'est-à-dire un style très, je dirais, proche d'une certaine façon de l'esthétique des nouvelles vagues des années 60, c'est-à-dire une caméra très fluide, avec les paramètres de l'époque contemporaine, bien évidemment.
Vous voyez, Jacques Audiard, je ne suis pas la seule à parler de nouvelle vague.
Oui, non, mais je ne comprends pas, j'allais dire, tiens, c'est du chinois. Mais on pourrait parler d'autre chose aussi. Hong Kong, qu'est-ce que c'est pour Wong Kar-wai? C'est aussi une boîte à lumière insensée. C'est une ville qui, d'emblée, vous donne une notion de décor intérieur-extérieur. C'est ce qui fait toutes ces images coupées en deux. Où on voit, il y a deux informations données. Ça, c'est Hong Kong. La façon dont... La lumière à Hong Kong, il faut avoir vu un jour la baie de Hong Kong pour savoir quelle influence ça peut avoir sur un cinéaste. Qu'est-ce que c'est que colorer les sources? Qu'est-ce que c'est que donner une émotion à travers des couleurs, les couleurs d'une source, comment l'émotion d'une scène? Ben voilà, moi je trouve que Hong Kong, ça peut donner cette envie-là.
C'est un endroit où vous auriez aimé poser votre caméra?
Excusez-moi, pardon.
C'est un lieu où vous auriez aimé poser votre caméra?
Non, pas du tout. Il y a trop d'informations pour moi. Seul un Hongkongais peut vraiment lire les signes de ça. Moi, je pense, c'est saturé de. C'est une ville qui est saturée de signes, comme souvent en Asie, même Taipei, c'est saturé de signes. Il faut avoir comment les indigènes s'en sortent très très bien. Et moi, j'adore comment ils nous donnent ces informations-là. D'ailleurs, moi, j'aime le cinéma pour ça.
Quel est l'endroit où vous aimeriez aller tourner, idéalement, comme ça, si je vous disais open bar, où vous voulez
open
aller
bar, vous allez être déçu, ça va être une réponse modeste, je vais peut-être dire le 19e arrondissement, j'ai fait le 13e.
Ben oui, je ne sais pas. Mais vous filmez le 13e vraiment comme un lieu qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, j'ai été frappé par ça.
C'est...
Ah, allô ? On a perdu Jacques Audiard. Avons-nous perdu Jacques Audiard ?
Angers, là. Vous avez entendu ?
Non, j'ai rien entendu.
Allô ?
Oui, voilà, je vous retrouve.
Michel,
oui.
Vous êtes là ? Non, non, je suis là. Je suis là, n'ayez pas peur.
Non, je ne vous entendais
vous êtes
plus.
Là, Michel ?
Oui. Est-ce que on n'a rien entendu ce que vous disiez sur le 13e arrondissement ?
Je ne sais plus.
J'ai pas entendu ce que vous disiez sur le 13e arrondissement.
Oui, comment le sans doute le oui, c'est ça, le 13e arrondissement. Moi, j'ai quand même beaucoup tourné dans Paris, vous voyez comment. J'en suis arrivé à la conclusion que Paris était dur à filmer, ne rendait pas beaucoup, il y a pas peu de perspectives, c'est très muséal, la nuit, c'est un peu sombre, voilà. Et j'ai voulu faire de Paris, traiter Paris comme une métropole, comme une grande métropole asiatique, peut-être, ou étrangère, voilà. Et le noir et blanc permettait il y avait quelque chose de graphique qui permettait qui me permettait ça. Et surtout le 13e arrondissement, qui est le quartier qui est le plus exogène de Paris.
Alors,
le moins parisien.
Maintenant, on va retrouver...
Et le plus parisien par son mélange.
Eh oui. On va retrouver un autre extrait du film qui, cette fois, se passe à Taipei. Tony Leung est sur le marché de nuit à Taipei. Il vient voir son ami Zhang, le troisième homme du film. Donc il dit, voilà, avant de rentrer à Hong Kong, je suis allé au marché de nuit à Taipei. Il y avait beaucoup de monde. Zhang n'était pas là, mais j'ai rencontré ses parents. Et les parents servent, en fait, à manger dans ce marché de nuit. Et il s'assied là, Tony Leung, et il mange sans leur dire qu'il connaît leur fils. Et on voit Taipei la nuit, ce marché incroyable. Il est 2h du matin, on a l'impression qu'il est midi. J'ai volé une photo de Zhang à ses parents. Est-ce que je le reverrai un jour? Je ne sais pas. Mais si je le cherche, je sais où le trouver dorénavant. Et ça, c'est Happy Together, enregistré par un groupe cantonais. Jacques Audiard, comment est-ce que vous choisissez les musiques qui vont faire vos films ? Moi, j'ai jamais oublié mon émotion d'entendre Bon Iver dans De Rouillé d'Os. Là, vous m'avez saisi parce que c'est vraiment un des albums que je préfère au monde. Il y a d'Ulysse, Dans mon cœur s'est arrêté. Il y a la musique électro de Ron dans Les Olympiades. Comment se fait le choix à chaque fois ?
Il s'avère que j'écoute beaucoup de musique. Je suis un mélomane passif. J'écoute beaucoup beaucoup de musique et ça correspond généralement à des états, par exemple sur les Olympiades, j'ai longtemps pensé que Schubert ferait l'affaire, que j'allais prendre le deuxième mouvement de la sonate de la 850, le mouvement con moto. J'ai longtemps pensé ça, c'était une erreur complète, je suis allé à l'opposé. Alors le résultat, c'est qu'à un moment donné, Lucide Zhang joue la sonate au piano. Ouais. Mais donc comment ça se fait, j'ai beaucoup de mal à vous dire, à être un peu... Comment, j'ai quand même travaillé très longtemps avec Alexandre Desplat.
Ouais.
Et après, à un moment de notre collaboration, j'avais la musique, le score d'Alexandre et d'autres musiques que j'allais chercher ailleurs, qui avaient pour fonction dans mon esprit de traiter peut-être plus le temps, alors que la musique de score traitait les personnages.
Est-ce que vous aimez avoir la musique avant de partir tourner ou pas forcément?
Je pense que j'aimerais beaucoup ça, mais ça se produit pas.
Mais vous n'avez pas une musique de référence, par exemple, ce qui d'ailleurs est compliqué parce qu'après il faut s'en détacher.
C'est-à-dire que comment vous connaissez un petit peu l'histoire, c'est que quand on est au montage, que on n'a pas encore la musique, on essaye des musiques, des choses comme ça.
Ça c'est terrible.
Alors parfois c'est pour les musiciens, oui c'est terrible. Mais nous on est obligé de le faire dans la salle de montage. On est obligé de faire ça parce que sinon des parties du film souffriront. Il y a des parties de musique, même si on n'a pas la musique, on sait qu'il y aura de la musique. Alors donc autant en essayer une de manière temporaire.
Alors on va voir selon Thierry Jousse comment Wong Kar-wai fonctionne avec la musique.
Si on prend l'exemple d'Happy Together par exemple, qui est un film à la fois typique et atypique puisqu'il se passe à Buenos Aires, donc on a évidemment les tangos d'Astor Piazzolla qui sont là pour dénoter d'une certaine façon l'argentinité, si je puis dire, du film. Mais vous avez aussi des musiques de Frank Zappa, par exemple, qui sont tout à fait en décalage par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Et on ne s'attend pas du tout à ce que Frank Zappa déboule dans cet univers sino-argentin. Et là, on est dans le décalage total. C'est des effluves, la musique, quoi, Sarah. C'est aussi des choses qui renvoient à des époques parfois antérieures. C'est-à-dire qu'on sent aussi... Mais même d'ailleurs dans des films qui se passent dans l'époque contemporaine, dans Chungking Express, donc le thème obsédant de California Dreaming des Mamas and Papas, qui est une chanson flower power californienne, bon voilà. Elle est là, évidemment, pour suggérer à la fois cette nostalgie d'une certaine époque, mais aussi sur le rêve, évidemment, du personnage qui veut absolument aller aux États-Unis, en Californie, et qui rêve tout le temps. D'ailleurs, c'est souvent vrai, les personnages de Wong Kar-wai, ils rêvent souvent d'ailleurs, rêvent souvent de s'en aller ou alors de revenir chez eux.
C'était donc Thierry Jousse, oui, qui nous parlait dans l'émission Le Chant d'Étoiles en 2007. Jacques Audiard, comment est-ce que vous procédez pour le casting? J'ai l'impression que vous dites souvent qu'il y en a marre du cinéma français, qu'on voit toujours les mêmes visages, ce qui est sans doute ce qui vous a amené à en trouver des nouveaux dans votre prochain film, Les Olympiades. Comment est-ce que vous procédez?
Je vais passer vraiment pour quelqu'un de très mauvaise humeur. Le type, il en a marre un peu de tout, en fait.
Mais pas du cinéma, donc tout va bien.
Il faut que je m'amende. Non, je suis pas en colère du tout. Si mes propos sont excessifs, je vous prie de m'en excuser.
Non, pas du tout.
Le casting, oui, c'est que j'ai quand même régulièrement, pour pas dire presque tout le temps, des envies de changement. Je trouve parfois que notre cinéma est trop en décalage avec ce que je vois de la société dans laquelle je vis, soit dans ce que je voudrais que soit dans la projection que je fais de cette société. Et donc il va falloir que ce soit des visages différents, des couleurs différentes, des phrasés différents, plein de choses. Et puis il y a cette idée aussi, qui n'en est pas forcément une, c'est que je crois un cinéma, je veux dire, un cinéma doit faire surgir les physiques de sa génération. Quand on voit le cinéma américain des années 70, tous les Pacino, Nicholson, tout ça déboule. Le cinéma, j'apporte de l'ombre, le cinéma des années 60, Belmondo, Carina, etc. Je sais pas si c'est une obligation, mais je crois. Alors ces visages, ils ne doivent pas exister avant. Le cinéma doit être le principe révélateur de ces visages et que tout à coup on doit les voir en grand. Moi, je sais que quand j'ai fait d'une certaine façon, c'était on peut faire des critiques sociologiques, économiques, même éventuellement cinématographiques d'un film comme Un prophète. Mais je peux dire encore aujourd'hui que un des objectifs d'Un prophète, c'était ça. Ça n'était que ça. C'est pour ça qu'il y a et je suis content parce que finalement, vous voyez bien, le cinéma, ça marche. Ils sont apparus.
Bien sûr.
Voilà. Ils sont apparus puis ils sont un peu restés aussi. Donc voilà.
Mais il y a aussi le fait qu'on croira plus à des visages qu'on n'a jamais vus. C'est aussi pour la crédibilité de l'histoire. C'est beaucoup plus vrai. C'est ce que disait Robert Redford en expliquant pourquoi il avait arrêté de jouer. Il disait, les gens voient plus que je joue, ils voient que Robert Redford jouant quelque chose, donc ça marche plus.
Ça rentre bien sûr en ligne de compte. Après, on se sert aussi, on peut se servir de manière dramaturgique de la célébrité de quelqu'un. Je vous cite un exemple et je m'excuse, c'est un film que j'ai fait. C'est par exemple De Rouille et d'Os.
Bien sûr.
Si c'est une personne que je ne connais pas, qui se fait broyer les jambes, c'est un accident du travail. Si c'est Marion Cotillard, ça, il se passe autre chose, voyez-vous.
Oui.
Elle tombe de plus haut. C'est un peu bête ce que je dis, mais on a l'impression que là, l'héroïne tombe de plus haut. Et je crois que il faut être conscient de ce que doit véhiculer le projet qu'on fait.
Et quand on prend quelqu'un comme Nils Arestrup, qui n'est pas vraiment une vedette, mais qui n'est pas non plus un inconnu, ça rentre dans quelle catégorie, ça? Juste le charisme absolu?
Dans un prophète?
Oui.
Dans un prophète?
Oui. Bah, écoutez, et de battre bon cœur, les deux, d'ailleurs.
Oui, oui. Alors, c'est pas le... D'ailleurs, je crois que j'ai fait de battre avant.
Oui.
Et moi, c'était un acteur, tout simplement, avec lequel je voulais. C'est un acteur qui me passionne, que j'ai fait au théâtre, tout ça. Je trouve que c'est un extraordinaire acteur. Et bon, quand on abordera tout à l'heure les questions sur les voix, vous entendrez peut-être son nom prononcé.
Ah, c'est bien.
Et Nils, voilà, il a cette capacité de battre. C'était un père, un ogre, et oui. Il a ça. Et que, après, dans un prophète, c'était quand même, c'est un peu paradoxal, c'était faire jouer un garçon, un homme d'origine nordique, le rôle d'un chef corse. Voilà, et puis c'était cette idée que sa blondeur dans une cour de tôle, on ne voyait plus que ça, c'était solaire.
Alors, le style au cinéma, la réponse de Wong Kar-wai. Après Chungking Express et Les Anges Déchus, je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on aille faire autre chose. Je voulais créer un été très froid. Et je pense qu'en l'été en noir et blanc, c'est froid. Et en Argentine, il fait très froid l'été. Pour moi, le style d'un film dépend de la situation dans laquelle on travaille. Comme les arrêts sur image. Ou au contraire, on tournait une fois à l'autre bout du monde et on n'avait pas assez de pellicule avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a juste tourné en accélérant la vitesse. Comme ça, on avait plus de pellicule et on pouvait faire plus de prises. C'est né de ça. J'ai voulu Tony Leung dans ce film parce que c'est quelqu'un qui est très sûr de lui en tant qu'acteur. Il est à l'aise. Et moi, je voulais le pousser un peu plus loin. Je voulais le déstabiliser, en fait. Et au départ, quand je lui ai dit qu'il fallait qu'il embrasse Leslie, il pensait que c'était une blague.
And he just think, oh, this guy is not serious.
Il s'est dit, c'est pas pour de vrai. Et puis le premier jour, je lui ai dit, voilà, c'est le premier jour de tournage, on va faire une scène d'amour. C'est bien, parce que comme ça, on verra jusqu'où on est prêt à aller, toi et moi. Et on l'a plus entendu pendant 3 jours, il n'a pas dit un mot, sauf de dire, mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère quand elle verra le film? La relation entre ces deux garçons, c'est comme un avion et un aéroport. Leslie Cheung, c'est l'avion, il décolle, il atterrit, décolle et atterrit. Et puis un jour, il s'aperçoit que l'aéroport est fermé. Il ne peut plus décoller. Tony Leung, c'est l'aéroport. C'est une histoire d'amour entre deux hommes. C'est la première fois que je parle de l'homosexualité. Et je voulais être juste. Et je passais mon temps à dire à mon équipe sur le tournage, vous êtes sûr que le film est assez gay? Mais au montage, je me suis aperçu que ce n'est pas un film gay. C'est un homme et une femme aussi, si on voulait. On va bien au-delà du genre. C'est l'histoire d'un couple. L'histoire d'un couple, Jacques Audiard, c'est quand même ce qui nous fascine toujours au cinéma, non?
Oui, c'est toujours fascinant. Mais c'est très très beau ce qu'il dit sur la définition un peu de ces personnages, l'avion et l'aéroport.
Oui, c'est magnifique ça.
Je trouve ça extraordinaire. Il y a une dimension, je pense. Excusez-moi, je peux développer un petit peu.
Ah mais comment ? Allez-y.
Il y a une chose que moi je lis dans Happy Together, c'est comment dans le rapport entre O et Wei, c'est que comment O, il y a une espèce de fantasme de la prostitution.
Oui. Et
c'est comme s'il demandait à Wei, qu'il refuse d'être son souteneur.
Absolument.
Et que ça, ouais. Et que ça ne marchait pas. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très très riche. C'est très très riche.
Et ça rôde tout le temps dans le film, d'ailleurs, parce qu'au début, Leslie est un gigolo, après Tony se prostitue.
Et c'est comment parce que toujours cette intensité, comment la jalousie a très peu de place dedans. C'est une jalousie, assez factuelle. T'étais avec qui, tu sauras qui, tu vas rejoindre qui. Ça n'est pas une jalousie proustienne où on va refaire, mais il y a 10 ans, qu'est-ce que tu faisais, etc. C'est une jalousie un peu de cours de récréation, très en surface et qui est vraiment au régime même de l'intensité amoureuse des deux amants.
Oui, c'est une jalousie qui vient pour nourrir leur obsession, en fait.
Oh, mais attends, la scène du tango amoureux entre les deux, mais c'est à pleurer, quoi.
Ah oui, oui. Ouais.
C'est fou.
C'est une des plus belles scènes d'amour qu'on ait vues, franchement.
Ah, mais c'est extravagant. Quelle inspiration, mon Dieu. Et vous avez vu comme elle est traitée différemment en lumière.
Bien sûr.
Elle est presque surexposée. C'est un seul plan. C'est une merveille.
Alors, on va peut-être écouter une autre merveille que je vous propose. C'est la rupture entre les deux.
Oh non, j'aime pas cette scène. Oh, je vais pleurer.
Alors là, Leslie Cheung est seule dans la chambre où ils ont tellement vécu toute leur histoire. Et il tient entre ses mains une lampe où on voit deux personnes au bord des chutes d'Iguazu. Et cette lampe symbolise leur histoire d'amour. Ils l'ont trimballée pendant tout le film. Et il regarde la lampe, il est dans l'appartement où ils ont vécu, il est contre une couverture écossaise et il pleure. Et il s'allonge sur le lit et il pleure. Et pendant ce temps-là, Tony Leung est parti aux chutes d'Iguazu. Et pendant que Leslie pleure, Tony voyage. Et la caméra va quitter l'appartement pour nous amener aux chutes. Je suis arrivé aux chutes d'Iguazu, dit Tony Leung. Je pensais à lui. J'étais très triste. Je me disais qu'on aurait dû y aller ensemble, tous les deux. Tony Leung, Leslie Cheung, j'aimerais juste parler un tout petit peu d'eux. Tony Leung, que maintenant tout le monde connaît depuis No Mood for Love, mais qui avait démarré dans La Cité des Douleurs, film sublime de Woo Seo-sian que je ne peux que vous conseiller. Et Leslie Cheung, la sublime concubine d'Adieu ma concubine, qui est jouée dans tous les films de Wong Kar-wai depuis Les années sauvages, et qui malheureusement s'est suicidée le 1er avril 2003. Juste avant de mourir, il avait croisé Maggie Cheung dans une soirée, il lui avait dit « Tu sais, je crois que je ne suis plus assez beau pour jouer ton amant ».
C'est effroyable.
C'est terrible, hein?
Ah oui.
C'est un type extraordinaire.
Quels acteurs ce sont. Moi, je sais que j'ai un faible pour Tony Lang, cette espèce de mélancolie qu'il traîne. Un sourire de Tony Lang, c'est une chose, mais absolument bouleversant. Et en plus, c'est des hommes. Je pense que ce sont des hommes qui ne doivent pas être très grands.
Exact.
Et ils sont très petits. Excusez-moi, je rentre dans du détail.
Ils doivent être très bien
proportionnés. C'est parfait. Mais je crois qu'il y a une espèce de concentration de traits. Ils sont éblouissants. Mais Tony Lang, il est drôle en fait. Il y a une chose on en parle pas, mais il y a une dimension d'humour et d'ironie dans Happy Together. La scène où O essaye de se foutre dans le lit de Wei,
oui.
C'est quand même un truc. C'est quand même hilarant quoi. Il y a ce truc juvénile, infantile presque, qui est très très beau. Et ils ont ça. Alors je suis assez d'accord avec. Avec Leslie Chang avec ce qu'il a dit avant. C'est vrai que le cinéma, ces acteurs et le cinéma de Hong Kar-wai n'appellent pas l'âge mûr. Voilà.
C'est ça.
On doit être un certain degré d'immaturité toujours.
C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Regardez
aussi,
Tony Lang.
Excusez-moi, pardon, j'ai pas entendu.
Non, j'ai dit c'est compliqué pour Tony Lang maintenant. Quel rôle il peut jouer?
Oui, non, mais bien sûr, mais ça, on n'en parlera jamais assez de l'usure de l'acteur. C'est terrible. Moi, ce serait un vrai sujet. Il y a aussi une chose quand même chez Leslie qui est, il y a comment il a fait son coming out peu de temps avant Happy Together.
Absolument. Oui.
Porter ça pour un gay dans une société un peu clivée comme la société chinoise, c'est déjà une fatigue. C'est une fatigue. Ça doit être épuisant déjà.
En plus, entre les deux, c'est ce que dit Wong Kar-wai, Leslie a l'air le plus fragile, mais c'était Tony le plus fragile humainement.
Ah oui, c'est vrai.
Et que Leslie, lui, était là en train de dire, moi, je suis le Tom Cruise de Hong Kong.
Oui, c'est ça, parce que leur carrière, c'est ça, parce que comment la carrière de Leslie a commencé très tôt et très fort.
Ouais, il était chanteur aussi.
Oui, bien sûr, c'est ce à quoi je pense. Et donc, il a été peut-être qu'il avait une pratique qui le rendait superficiellement apparemment solide, mais qui forcément, moi je pense que c'est des gens qui ont des vies, là aussi je reviens à ça, des vies intenses, des choses compliquées.
Oui, et puis après il avait l'impression que Tony Lang l'avait un peu remplacé en tant que qu'alter ego dans le cœur de Wong Kar-wai, parce que ça faisait, en fait c'est le dernier film qu'ils ont fait ensemble, Wong Kar-wai et Leslie, Happy Together, après il n'a plus tourné avec lui, ça c'est un peu triste.
Oui.
Est-ce que vous auriez l'idée de mettre Tony Lang dans un film? C'est quelque chose qui pourrait vous inspirer?
Non, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça du tout.
On peut admirer quelqu'un et pas avoir envie de le faire tourner.
Bien sûr. Et n'empêche que je trouve que dans tous les films, Tony est un acteur absolument. Dans In the Mood for Love, il est absolument éblouissant. Dans Chungi, il est formidable, mais dans In the Mood, il est remarquable, vraiment remarquable.
Alors, tout à l'heure, vous parliez de la chanson de Caetano Veloso. Je pense que on va l'écouter, mais en tout cas, ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que s'ils n'ont pas la chair de poule, c'est qu'on n'habite pas la même planète.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Gemía cantaba de pasión mortal, moría. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
Caetano Veloso en public, la Paloma. Jacques Audiard, comme tous les jours, nous allons écouter Jean-Luc Godard qui va intervenir dans l'émission.
Je veux dire, c'est bien gentil de répondre à ces questions.
Alors Jacques Audiard, en hommage à vous, on va passer un extrait où on parle d'Amérique. Vous n'avez pas eu envie, Jean-Luc Godard, d'aller faire des films aux États-Unis?
J'ai essayé de faire des films en Amérique et je n'ai pas réussi.
Mais pourquoi ce désir d'aller faire des films en Amérique?
Parce que c'est une des patries du cinéma. C'était le désir. Et puis l'Amérique, il y a beaucoup d'auteurs américains que j'aime beaucoup, comme Faulkner. Ça a duré longtemps, mais au début, c'était simplement parce que c'était une sorte de marraine, l'Amérique.
Une marraine, l'Amérique? Vous l'avez vécu comme ça, Jacques Audiard?
Mais je suis pas tourné. J'ai pas tourné au Michel aux États-Unis.
Oui.
Moi, j'ai refusé.
Oui.
J'ai tourné. J'ai fait un western moitié en Espagne, moitié en Roumanie. Vous
avez refusé pourquoi?
Ben parce que je peux pas faire de réponse trop brutale, parce que c'était déjà cher, ça aurait été encore plus cher.
Oui.
Que c'est très difficile pour moi d'être sous la coupe des agents, vous voyez.
Je comprends.
Il y a tout ce monde de l'argent qui est asphyxiant. Je peux pas les voir en peinture. Je l'ai.
On est d'accord. Jacques Audiard, bon, c'est l'heure du questionnaire.
Une question, une réponse. Oui, allons-y.
La première séance dont vous vous souveniez.
Je crois que c'était. Je pense que c'était les 10 commandements de Cécile B. 2000 au cinéma du catéchisme dans la ville de province dans laquelle j'habitais quand j'étais enfant. Je vais avoir 6 ou 8 ans. Et je me souviens du vieux monsieur qui nous racontait les débuts de qui nous racontait Moïse dans l'envergure. Et c'était Cécile B. 2000. un film de dément.
La dernière séance qui vous est marquée?
Les dernières séances, c'est pas là. Les dernières séances, vous savez, j'ai fait consciencieusement le travail, j'ai revu les films de Wong Kar-wai. Donc voilà. Et je les conseille, mais sans restriction aucune. Mais non, Michel, les yeux ouverts.
Vous avez raison. Votre film de chevet.
Mon film de chevet. Je sais pas trop, à vrai dire. Je sais pas si j'en ai. Je peux dire que j'ai des livres de chevet, des films de chevet. Je sais pas si j'en ai. Ça change beaucoup. J'ai eu beaucoup de j'ai beaucoup aimé Lynch, voilà, des choses comme ça. Mais je sais pas si j'ai un film de chevet, un film de référence. Je sais pas. Je crois pas.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre.
Dans n'importe quel film de Romère. Un monde calme, de gens qui parlent, ouais, où le plus gros drame qui puisse vous arriver, c'est d'avoir oublié votre serviette sur la plage.
Le classique qui vous laisse de marbre.
Je n'ai pas de réponse à ça. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est qu'à un moment donné, dans les années 70-75, j'ai senti qu'il y avait, comment, les commissaires politiques, les cahiers du cinéma, nous ont obligés à aimer des films qui n'étaient pas des bons films.
Pas un film en particulier à nous citer.
Je me souviens pas d'être sous le coup d'une injonction qui me fasse dire, je dois aimer cette chose-là, ou les gens aiment, donc je le devrais. Non, j'ai pas vraiment ce sentiment-là. Non.
La pépite que personne ne connaît.
C'est peut-être, bien sûr que j'ai des films, mais beaucoup de choses, parmi les choses qui m'ont le plus impressionné, je sais pas, ces 10, 15 dernières années, ne viennent pas forcément du cinéma, ce sont des images, ça vient pas du cinéma. Et moi, comment le travail de Pierre Huy, qui est un artiste contemporain, alors qui a fait des images, qui a fait un film sur Fukushima, qui s'appelle, je crois, Masques humains, je crois, j'en suis pas sûr. Et surtout un grand film, The Host and the Clown, que je suis allé, c'était projeté à une rétrospective à Beaubourg, j'ai dû y aller c'est un film assez long, j'ai dû y aller 3 fois de suite pour voir le film en entier. Alors, pourquoi c'est beau? Parce que c'est assez indescriptible. Voilà.
Votre voix de cinéma préférée?
Ah, j'en ai plusieurs.
Allez-y, c'est pas grave si vous en avez plusieurs.
Ah, bien sûr, il y a Nils Arestrup, il y a Jean-Louis Trintignant, il y a Monica Vitti, il y a Delphine Seyrig, oh là là, mon Dieu. Il y a beaucoup de... Valeria Bruni. Ouais. J'adore. Et alors, c'est vrai la femme italienne peut avoir il y a des voix de femmes italiennes qui me bouleversent.
Votre salle de cinéma préférée?
Alors, ce qui allait être assez intéressant, quand je faisais le film, c'était très difficile d'avoir des projections en salle, puisque les salles étaient fermées, les trucs sanitaires, tout ça. Il y a des salles que j'ai redécouvertes et que j'ai adorées. Par exemple, il y a le Grand Action.
Bien sûr.
C'est connu. Et puis, il y a l'ex-Saint-Germain, qui s'appelait le Bonaparte de Beauregard.
Tout ça. Le Beauregard maintenant. Oui.
Et c'est une très belle et bonne salle comme le Grand Action. On y est très bien. Quoi.
C'est quoi pour vous une bonne salle? C'est le rapport entre l'écran
C'est le volume, c'est le volume de la salle, la largeur de l'écran. Et c'est vraiment, il y a une chose, parfois c'est trop loin, parfois c'est trop près, et qu'il faut vraiment que, après ça peut être des différences. Moi, par exemple, je projette chez moi, j'ai un projecteur, je projette sur un mur, donc c'est une image assez grande. Ouais. Il faut que ce soit plus grand que ça, sinon je reste chez moi.
Bien sûr. Et vous avez une place préférée dans la salle?
Oui, toujours sur un bord de rampe. Pour sortir vite, si j'ai envie de sortir.
Plutôt près ou plutôt loin?
Au milieu.
Votre prochaine séance?
Ma prochaine séance, alors je ne sais pas ce qu'elle sera. Il s'avère que j'étais à Cannes et que ça faisait longtemps que le programme du Festival de Cannes ne m'avait pas donné autant envie de voir des films.
Oui.
Il y avait en officiel, il y avait une programmation absolument, je trouve, très 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 tentante. Voilà. Donc j'attends ça avec impatience.
Votre vœu cinéphile? Oui, pardon.
Mon vœu? Non, rien du tout. Non, mon quoi, pardon?
Votre vœu cinéphile?
Mon vœu de cinéphile, je me répète un peu, mais c'est que je souhaite que des gens jeunes, moins jeunes, ça continue de faire du cinéma qui m'enthousiasme pour que moi je continue à m'enthousiasmer pour le cinéma.
En tout cas, votre film, Jacques Audiard, le prochain, qui sort en octobre, est enthousiasmant. Merci d'avoir participé.
C'est gentil, merci beaucoup.
Cette émission, non, c'est vrai, c'est sincère.
Ben, j'espère bien.
Au revoir, Jacques Audiard.
Au revoir, Michel.
Aujourd'hui, nous avons parlé de Happy Together, le film de Wong Kar-wai, que je vous invite vraiment à découvrir. D'ailleurs, tous les films de Wong Kar-wai sont disponibles sur la Cinéthèque, je crois. Vous pourrez les voir ou sur Mubi, je ne sais plus, l'un des deux. Demain, nous parlerons de Léos Carax et de Mauvais Sang avec Christophe Honoré qui sera parmi nous. L'émission d'aujourd'hui était réalisée par Doria Zénine, préparée par Meryl Moneghetti Elie Labozos et à la technique Jordan Foltes. À demain.